Peuple du samedi, bonjour, soyez le bienvenu chez Clara et les Chics Livres, votre salon littéraire du samedi, en direct sur France Inter. Une heure d'amour et de livres, un peu comme au XVIIe siècle, au temps de la duchesse de Lavallière. La duchesse de Lavallière, yeux clairs, cheveux blonds, excellente danseuse, l'amante parfaite, dira Sainte-Beuve. Surtout, elle porte une cravate grise à larges nœuds flottants, appelée aujourd'hui d'ailleurs une lavalière. Le cœur de Louis XIV s'attache à ce morceau d'étoffe et à sa propriétaire. Il fait de la duchesse sa maîtresse officielle en 1661. Mais la redoutable marquise de Montespan, toujours elle, veille. Furieuse et jalouse, elle rabroue, humilie, harcèle notre pauvre duchesse, laquelle finira les 36 dernières années de sa vie sans sale cravate grise, mais vêtue d'une robe de bonne sœur après avoir donné 4 enfants à Louis XIV. Eh bien, cette émission rhabille la duchesse de Lavallière et mes chic types lui auraient volontiers noué sa cravate. Alexis Lacroix, bonjour.
Duchesse, moi, vous savez, je préférerais la dénouer.
Je n'en doutais pas, Alexis, et Gilles Ray, Gilles.
Clara.
Et tout est dit. Le canevas de cette émission, vous le connaissez, chers auditeurs, ruban de chroniques impertinentes, culture et fantaisie entrelacées, et notre étoffe préférée, notre invité, bien sûr. Messieurs, chers auditeurs, voici Annie Butor. Bonjour Annie.
Bonjour.
Vous venez de publier « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. Vous y racontez l'amour fou et la chute de Léo Ferré et de sa femme, Madeleine Rabraud, votre mère. Léo Ferré entre dans votre vie lorsque vous avez 5 ans. Vous l'appelez Pouta. Il est fou de votre mère. Il a dit un jour « Je suis né par erreur en 1916 et une seconde fois le 6 janvier 1950 quand j'ai connu Madeleine. » Elle l'aide à éclore. Léo et Madeleine vous emmènent dans les cabarets, vous dormez sur les banquettes, vous reprenez l'école le lendemain matin. Et puis le succès déferle. Heureuse nouvelle ? Pas forcément. La démesure déferle aussi. Le théâtre de cette folie, ce sera un château dans le Lot, dans lequel Léo Ferré et votre mère s'enlisent. Alcool, dispute, isolement, et surtout, ils laissent libre cours à leur passion des animaux avec l'adoption d'un chimpanzé femelle appelé Pépé, ils disent leur fille. Pépé prend votre place, la déraison prend toute la place. Léo et Madeleine se séparent en 1973. Léo choisit l'amertume. Madeleine ne choisit rien du tout, dévastée par la séparation et complètement ruinée. Vous, vous choisissez de vivre et d'écrire. Votre livre est donc bien plus que la révélation d'un Léo Ferré intime. Il raconte aussi le point de bascule, celui de l'amour vers le rejet, de l'anonymat vers la gloire, de la gloire vers le cauchemar. Et c'est aussi le portrait déchirant d'une mère follement amoureuse. Annie Butor, vouliez-vous rendre d'abord hommage à votre mère qui, au fond, a été quand même la grande oubliée de l'histoire ?
Alors, hommage, oui, bien sûr, mais j'emploierais peut-être plus le mot « justice » parce qu'elle a été totalement calomniée. Déjà sur un point, elle a été à la fois calomniée et à la fois, je crois que vous m'avez dit oubliée, elle a été gommée véritablement et volontairement. Alors elle a été calomniée entre autres et surtout concernant notre vie, j'allais dire notre vie animale, parce que j'ai lu, et elle avait lu elle-même, elle en a été extrêmement malheureuse, elle a beaucoup souffert, qu'elle avait tué Pépé, qu'elle avait assassiné tous les chimpanzés. Et des journalistes ont raconté, sans l'avoir vécu, ou sur des échos, je ne saurais pas en connaître exactement l'origine, des choses totalement fausses. Alors Pépé, il faut le savoir, c'est important et je suis contente de pouvoir le dire officiellement. Léo lui-même l'a quand même dit, mais tout doucement. Pépé était blessé, était très gravement blessé, elle avait attrapé la gangrène. Un vétérinaire, pas celui dont parle Léo, mais un autre, un homme qui s'appelait le docteur Salès, qui était à Gourdon, avait essayé de la soigner. C'est difficile de soigner un chimpanzé. Elle défaisait ses bandages, on ne pouvait pas. Elle était vraiment très gravement malade, il n'y avait pas d'autre solution. Ça, c'est pour Pépé. Il y avait Zaza. Zaza, c'était une vieille chimpanzée qui était très méchante. Et Léo a écrit une chanson Zaza que je n'aime pas du tout. Et Zaza, Léo en avait peur. Elle était tout le temps en cage. Il ne rentrait pas dans la cage. Il avait peur. Donc, il faut que les choses soient dites tout de même.
Voilà, donc votre mère n'était pas le bourreau des animaux préférés de Léo Ferré.
Pas du tout, mais non seulement ça. Il y avait le dernier animal qui a été qui est mort. C'était Babar, le cochon. Mais tous les deux, je les revois discutant, s'il nous arrivait quelque chose, on ne voudrait pas que le cochon finisse en jambon.
Bon. Ah oui, ça, vous l'avez raconté dans le livre.
Ça, je crois j'en parle. Mais il y avait encore trois autres chimpanzés dont je me suis occupée moi-même, où j'ai été en donner l'un à Holiday on Ice, un autre à une riche américaine, donc je m'en suis occupée, j'en parle aussi. Et tous les autres animaux, ben, Léo les a fait vendre, et là, il s'est pas occupé si ces animaux, je parle des moutons et autres, s'ils allaient finir en gigot ou pas. Enfin, les animaux, il y a beaucoup à dire.
Gilles Ray.
Oui, Annie Buteur. Léo Ferré a écrit de nombreuses chansons pour Madeleine, votre mère, et des poèmes aussi. Et dans l'un d'eux, il écrit « Alors vous m'avez souri, alors vous m'avez dit « Viens, je m'appelle Madeleine ». ». Donc c'est plus qu'une histoire d'amour. En quoi ce lien était-il exceptionnel ?
Écoutez, il a écrit alors un nombre incalculable de chansons pour elle depuis le début. Enfin, je l'en cite comme ça de mémoire, que ne serait-ce que « Les amoureux du Havre »,« À toi »,« Ça te va », bon, plus tard, « T'es chouette »,« Mon petit voyou », qui était le nom d'une de nos maisons en Normandie. Donc il a écrit un nombre incalculable, des déclarations d'amour non-stop à tous les journalistes de l'époque. Moi, j'ai des lettres que je ne peux pas. J'étais obligée de m'auto-censurer parce que j'ai des lettres qu'écrivait Léo à ses beaux-parents, aux parents de maman, des lettres d'amour pour maman qui étaient incroyables, à la fois de drôlerie et... Donc, quelle était votre question exactement ?
En quoi c'était
exceptionnel ? Parce qu'il y avait entre eux, bien sûr, une connivence et bien sûr un amour physique, mais surtout une complicité intellectuelle, une complicité qui était constructive. Maman était une littéraire. Ensemble, ils aimaient Léo Tôt. Ensemble, ils ont fait tellement de choses ensemble que c'était exceptionnel. Enfin, je ne me rendais pas complètement compte. Maman me récitait des poèmes des nuits entières. Elle mettait des livres sous le nez de Léo. Léo était un homme extrêmement cultivé, mais ma mère aussi. Et ce qui m'a fait mal, c'est peut-être classique, mais c'est qu'après, Léo, lui, a dit qu'il ne voulait plus ni de femme intelligente, ni de femme cultivée, que l'intelligence des femmes était là.
Oui, parce que c'était la question d'Alexis Lacroix. Oui, Alexis, allez-y, Alexis.
C'est vrai que c'est un mystère, vous soulignez, hein, donc comment voulez-vous que j'oublie l'intensité, la force, la vérité de cette relation entre votre mère Madeleine et Léo. Il n'empêche qu'au moment du divorce...
Ah, il a fait des déclarations.
Il a renié même l'amour qu'il lui avait porté, ce qui est quand même étrange. Et vous mettez cette hypothèse, vous dites qu'il lui fallait toujours une tête de Turc. À ce moment-là, sa tête de Turc, ça a été sa femme ?
Il a eu une tête de Turc tout le temps. C'était les éditeurs, c'était les autres chanteurs, c'était les chanteuses. Il y en a qui sont mortes, il y en a qui vivent encore. Je ne veux pas trop citer les noms, j'en citerai quand même une. Parce que elle qui vit encore, donc je prends mes risques, c'est Juliette Gréco, qui par ailleurs, je la trouve une femme intelligente, mais qui a raconté pas mal de bêtises sur Léo. Et il disait du mal de tout le monde. De toute façon, les éditeurs, enfin j'en parle, des truands, les chanteurs, les chanteuses.
À ce moment-là, c'est votre mère qui se retrouve dans l'œil du cyclone.
Oui, parce qu'il envoyait maman en chien de garde devant pour qu'on soit... On faisait un clan. Et il voulait voir personne. Il voulait nous trois, plus tous nos animaux... contre le monde entier. Et puis, petit à petit, après, il y a eu contre le monde entier, puis après, l'un contre l'autre.
Mais ça, alors, il faut quand même le préciser, la façon dont vous en parlez, le livre n'est pas pour autant un portrait du tout dévastateur de Léo Ferré.
Ah non, pas du
tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'on découvre quand même un Léo Ferré absolument passionnant. Et il y avait notamment quelque chose qui avait marqué Gilles Ray, c'était sur la réunion des trois grands, Gilles Ray.
Oui, parce que c'est... Enfin, on connaît tous la photo. Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, donc c'était une trilogie exceptionnelle.
Mais alors,
je crois que c'est page 39, vous n'en dites pas suffisamment là-dessus.
Non, mais j'ai des raisons pour ne pas en dire suffisamment, c'est-à-dire que je me suis, ce n'est même pas une question de censure, c'est que je me suis arrêtée sur certains de mes souvenirs, moi en 68, parce que cette réunion a eu lieu en 69, je n'y ai évidemment pas participé, c'était après, il venait de rompre avec maman. Alors cette réunion, tout ce que je peux en dire, c'est que l'affiche est très belle, elle est symbolique, mais elle est très convenue. Et j'allais dire pour moi très banal, parce que moi personnellement, j'ai entendu des conversations, plus que des conversations, enfin à longueur de soirée, Léo crachait sur ses confrères
il critiquait seulement, il ne crachait pas dessus.
Oh, écoutez, je peux vous dire que, alors pour vous citer un exemple précis, d'ailleurs j'adhère sans adhérer, enfin ça m'est égal, il y avait un verre de Brel qui mettait Léo en rage. « Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. » Bon, et ça peut, des gens peuvent trouver ce verre très beau, je ne prends pas parti, mais Léo ne pouvait pas le supporter. Il n'arrêtait pas de dire « ça veut rien dire, ça veut rien dire. »
Il l'appelait l'abbé Brel.
Il l'appelait l'abbé Brel. Je crois qu'il n'était pas le seul, d'ailleurs. Et puis Brel, de son côté, disait aussi du mal de Léo.
C'est sympa, la chanson française tout début des années 70.
Alors, non, mais il est plus simple pour moi de dire, et plus rapide surtout, de dire les gens que Léo aimait plutôt que ceux qu'il n'aimait pas.
T'es toute nue sous ton pull, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.
C'était Joli Môme de Léo Ferré, bien sûr. Vous écoutez Clara et les Chics Livres en direct sur France Inter, votre salon littéraire du samedi. Notre invitée, c'est Annie Butor, qui raconte son enfance particulière aux côtés de sa mère et de Léo Ferré dans « Comment voulez-vous que j'oublie ?», magnifique livre paru chez Phébus. Notre numéro 01 56 40 52 85 ou la page de Clara et les Chics Livres sur franceinter.fr. Vous nous contactez, vous nous écrivez pour vos coups de cœur et coups de gueule littéraires. C'est l'heure des idées reçues, mais oui, nos petites certitudes démontées par le monde des lettres. Nous reviendrons ensuite à Annie Butor. Et cette semaine, première idée reçue, un livre peut servir d'alibi publicitaire. Eh bien, c'est vrai. C'est regrettable, mais c'est vrai. Imaginez que vous êtes un marchand de sacs très chers. Vous voulez vendre des sacs, bien sûr, mais vous ne voulez pas d'une publicité bassement commerciale. C'est un peu vulgaire. Vous préféreriez une promotion intellectuelle, valorisante pour vos sacs, ça a plus d'allure. Bien, c'est très simple, vous vous lancez dans les livres. C'est ainsi que récemment, alors que votre duchesse se prélassait dans sa méridienne, quotidienne, un coursier fort bien mis lui a apporté un dossier de presse. C'était Louis Vuitton qui annonçait avec Fast la création d'une collection littéraire nommée Louis Vuitton Travel Book, un livre de voyage donc Louis Vuitton. Comme ça, la marque est visible en librairie, habile tactique pour installer Louis Vuitton dans un espace a priori étranger au sac de luxe. Ce procédé est connu des services Vuitton. Ces derniers mois, nous avons vu arriver un livre intitulé « La Malle ». En couverture de grands noms de plumes, comme Marie Darrieussecq, Elietta Bécassis ou David Fuenquinos. C'est Louis Vuitton, toujours, qui avait demandé à ses auteurs d'écrire une nouvelle à partir de la paperasse retrouvée dans le grenier de la marque. De la publicité ? Mais non, de la création littéraire ! Les auteurs ont ensuite posé avec un sac Louis Vuitton et ses clichés mémorables viennent anoblir un peu plus cette logique marketing, cette logique de création littéraire. Notons que dans un sursaut de dignité, certains auteurs ont refusé la pose avec un sac Vuitton. Et voilà comment un marchand de sacs couleur marron dore son image, s'enorgueillit d'une tradition littéraire devant, diffuse le nom de la marque derrière, sans compter qu'il fait monter 6 étages à de pauvres coursiers pour un simple dossier de presse. Alors, on dira que c'est une position puriste, que votre duchesse est farcie de principes. C'est vrai, j'ai des principes dans la vie. Par exemple, être poli, ne pas braquer une banque ou ne pas utiliser la littérature à des fins purement publicitaires. Et aussi, assumer ses choix, assumer l'activité de vendeur de sacs sans en camoufler la promotion sous de grands airs littéraires. La librairie et l'édition, déjà mal en point, ne s'en porteront que mieux.
Oui, enfin, je dois vous prévenir, chère duchesse, que mon prochain éditeur sera soit Gucci, soit Prada. J'hésite encore.
Ah, oui. Vous êtes dans la tendance, cher Gilles. Vous êtes dans la tendance. Deuxième idée reçue cette semaine, le hasard n'existe pas. Eh bien, c'est vrai, cher Alexis, le hasard est une chimère.
Eh oui, chère duchesse, il n'existe pas. C'est une chimère, du moins, c'est une chimère dans le dernier livre de Philippe Labreau. Le flûtiste invisible. Philippe Labreau y rapproche 3 histoires. Dans la première, celle d'un homme qui embarque pour la première fois sur un paquebot et qui, parce qu'il était conduit par une passagère qu'il reluque, rencontre le grand amour. Dans la deuxième histoire, c'est un ancien sniper de l'OAS qui avoue un jour à l'auteur qu'il y a 50 ans, il a failli le tuer. Il l'a tenu assez longuement en joue et la survie de Philippe Labreau, alors jeune journaliste en Algérie, n'a tenu qu'à l'arbitraire du sniper. Dans la troisième histoire, enfin, l'auteur raconte la chance inouïe d'une famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Son ami Thomas avait 9 ans lorsque ses parents, des juifs hongrois, ont trouvé refuge dans une briqueterie. Au premier étage, la baisse de température l'empêchant de s'endormir, le petit garçon a exigé de ses parents qu'il se réfugie avec lui à l'étage inférieur, moins exposé au froid. 2 heures plus tard, ils entendaient les SS vider le premier étage de ses occupants pour les envoyer dans les camps d'extermination. Entre ces 3 histoires émouvantes et disparates, il y a un point commun. Le hasard n'y joue aucun rôle, car par-delà le chaos des événements, une cohérence est discernable. À mi-chemin entre Paulo Coelho et la cabale, Philippe Labreau assure qu'une force mystérieuse, un flûtiste invisible comme il dit, agit dans le dos de l'humanité à son insu. Cette entité surnaturelle, il l'appelle l'élément inconnu. Autrement dit, ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle et aucune prise, ce dont nous ne pouvons imaginer qu'il en exerce un sur nous. Un peu comme vous, duchesse, sur mon cœur. Cet élément inconnu n'est pas d'essence religieuse. Il ressemble plutôt un déterminisme radical. Et ce n'est pas un hasard si Philippe Labreau cite le prix Nobel Albert Einstein, « Tout est déterminé pour l'insecte que pour l'étoile », écrivait Einstein, « les humains, les légumes ou la poussière cosmique, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse ».
Donc vous aussi, Alexis, vous dansez au son d'une musique mystérieuse.
Duchesse, ma musique mystérieuse, c'est votre souffle.
Moi, c'est plutôt le bruit de vos pas qui s'éloigne. Alors,
monsieur, restez en paix. Le flûtiste invisible de Philippe Labreau, paru chez Gallimard. En parlant de forces mystérieuses, je me tourne vers Annie Butor, notre invitée, auteur de « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. Annie, vous racontez l'amour fou de Léo Ferré et de votre mère, Madeleine Raburo. Force mystérieuse et destructrice. Un jour, Madeleine et Léo décident d'adopter une femelle chimpanzée baptisée Pépé. Ils la présentent comme leur fille. Pour elle, ils appellent le médecin et non pas le vétérinaire. Ils l'habillent avec des vêtements d'enfant. Elle dîne à la table familiale. Alors à un moment, quand même, Annie Butor, la question se pose. Comment expliquez-vous que deux êtres sensés s'entichent à ce point d'un chimpanzé ?
Alors, pour reprendre votre question plus précisément, vous avez dit « décide », je crois.
Oui.
Hein. Alors, ils n'ont pas décidé, hein, ça s'est trouvé comme ça, dans les loges de l'Alhambra. C'était une pauvre petite chose, toute petite, toute mignonne, toute malade.
Oui, il l'emmène avec eux,
qui avait la gale, qui était là, et le dresseur...
Aussi mignonne que la duchesse ?
Oh non.
un peu moins velue.
sans doute, sûrement.
Comparaison n'est pas raison. Hein.
Vous allez prendre une banane absolument. Dans la figure, Alexis ?
Non, mais c'était, elle avait la gale. Donc Léo, se disait, il était très fier de dire qu'il était le seul chanteur galeux du monde. Ça lui plaisait de dire
ça. Oui, mais
ça.
Ils partent quand même
mais,
avec.
Ils sont pas partis. Elle était là tous les soirs dans la loge parce que ce dresseur devait partir en Angleterre où il y avait la quarantaine. Il pouvait pas emmener celle qui s'appelait Gloria à l'époque, jamais joli mot, hein, qui s'appelait Gloria. Et donc on l'a laissée. Et puis se sont laissés prendre au jeu parce que c'est merveilleux. Un petit, alors là, pour répondre très précisément, parce que je l'ai vécu et au départ, j'étais partante et j'étais d'accord, si tant est qu'on m'écoutait, on m'écoutait quand même encore un peu à l'époque, c'était qu'un petit chimpanzé, c'est mieux, j'allais dire, et je sais ce que c'est, je suis mère, mieux qu'un enfant, jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire une intelligence qui croît beaucoup plus vite, et puis une intelligence stupéfiante. Enfin, on perd ses marques, on ne sait plus. Il y a une proximité génétique qui est à la fois ahurissante, passionnante. Et moi, je voulais jouer mon rôle là-dedans. Mais ça a débordé.
Voilà,
après.
Dans un premier temps, quelque chose d'expérimental.
Ensuite, et de tendre.
Voilà, et ensuite, Gilles Ré.
Oui, mais. Hein, après, elle piétine tout, elle casse tout, elle vous frappe. Elle est diabolique.
Même diabolique, c'est pas le mot. Je vais vous dire, moi, j'adore les animaux. Donc
aussi,
même
oui.
Voilà, donc même les chimpanzés, au moment où je vous parle, j'aime encore les chimpanzés, j'aime tous les animaux, mais c'est la manière dont ils se sont comportés envers les animaux. Et puis un chimpanzé, ça reste quand même un animal sauvage. Et en plus, pour le peu que je m'y connais pas en gorille, en orang-outan et autres primates, mais le gorille m'a toujours été beaucoup plus sympathique avec sa grosse force et un côté timide, l'orang-outan.
Un peu Alexis Lacroix quand même.
C'est un peu moi, absolument. Dans l'émission, je joue le rôle du gorille philosophe.
Ah bon,
et justement, on se demandait, parce qu'Annie Butor, vous écrivez dans votre...
Oui, parce qu'il a un Yorkshire chez lui. Hein,
dans votre récit, Joker, vous écrivez dans votre récit, Annie Butor, personne n'osait leur dire que leur expérience était dangereuse.
Ça, c'est autre chose.
Et puis un jour, c'est vous qui vous êtes dévoué, vous leur avez dit, et vous vous êtes opposé à eux. Et quelle fut alors la réaction de Léo Ferré et de Madeleine, votre mère ?
La réaction fut très violente. Mais avant, quand vous dites personne, c'est là où j'ai le plus souffert, moi. C'est que la notoriété, la gloire, les parasites, les gens qui voulaient les flatter, leur disaient, vous faites une expérience extraordinaire, et les poussaient à ça. Et là, moi, j'en ai souffert, parce qu'il n'y avait personne pour les contredire. Tout le monde
C'est l'idée que dans la gloire, on ne rencontre
alors,
plus de contradictions.
Plus de contradictions. On est seul. Seul, où là, ils avaient leur folie à tous les deux. Et c'est à partir de ce moment-là où ça a dérapé. Personne n'osait leur dire. J'ai des lettres absolument démentes de pseudo-amis qui leur disaient je veux venir prendre un bol de pépé, c'est extraordinaire ce que vous faites. Enfin, ouais. Et des expressions inimaginables.
Non, mais c'est un vrai basculement vers la folie.
Ils ont été aidés. Ils avaient les moyens de leur folie, puisqu'ils avaient de l'argent à ce moment-là, puisque je parle après 61, après l'Alhambra et tout. Donc, ils avaient les moyens de s'isoler, d'aller au bout de leur folie, et ils y étaient aidés par beaucoup de parasites et des flatteurs. Et là, j'ai eu un écœurement.
Et alors, juste quand vous vous opposez à eux...
Et quand je me suis opposée, moi, à eux, pour la première fois, ça a été très violent. Ils m'ont rejetée. Je ne faisais plus partie de la famille, plus du clan. J'avais qu'à partir comme j'étais.
Vous aviez quel âge, là ?
Écoutez, c'était en 61 et je suis née fin 44. Je vous laisse faire le calcul.
Et Annie Butor, quand votre mère,
horrible.
Par exemple, vous disait, dans la tendresse d'ailleurs, hein,
oui.
Pépé, c'est votre soeur. Comment
c'est
vous
ma
réagissiez
soeur. Ah ben, pas trop bien. Mais c'est pas que j'étais jalouse, parce que moi, je l'ai toujours considérée comme un animal. Mais eux, non, eux pensaient qu'elle allait parler, qu'ils arriveraient plus que les autres, plus que Jean Richard, évidemment, et plus même que d'autres propriétaires privés de chimpanzés, qu'elle allait parler, révolutionner, que c'était non, même pas notre cousin ou cousine, mais que c'était... Enfin, ils cherchaient le chénon manquant. Et donc, Léo lisait Darwin, ils étaient
mais
sur deux.
Mais est-ce qu'avec ça, Annie Butor, parce qu'à un moment, Léo Ferré dit « Un chimpanzé, c'est presque nous, l'innocence en plus ».
Là, il se trompait. Là, il se trompait complètement parce que, alors, je l'ai vécu, l'innocence, c'est pas un chimpanzé. Alors là, je pourrais, ça serait
trop
long.
Mais c'est la phrase de quelqu'un qui est très misanthrope.
Ah ben oui, il était misanthrope, Léo.
Donc il y avait aussi le côté, je tente peut-être avec l'animal ce que je ne réussirais pas avec l'humain.
Ah, peut-être, oui. Sans doute, oui. Et puis surtout de pouvoir prouver, d'être contre les gens. Que je cite dans mes ans, il dit contre tous ces cons, il voulait être mieux que les autres, arriver à prouver.
Il pensait qu'il n'y avait pas de distinction entre l'animal et l'homme.
Il y avait une différence, il l'avait dit, il me l'avait dit, il me faisait lire Desmond Morris au départ et puis après Darwin. Et il me disait, il y a une différence de degré, mais pas de nature. Ce sont nos, si ce n'est nos cousins ou nos pères et mères, mais en tout cas, on descend d'eux directement. Donc, c'était un petit peu dur. Et c'est moi, j'en voulais pas à Pépé, j'en voulais à la manière dont ils se sont comportés avec elle et dont l'argent et les gens leur ont permis de poursuivre leur folie.
So many questions, but many less answers. I seem to leap from doubt to doubt. Like a blind drifter, and the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands, not familiar but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run toward you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Mm-hmm. So give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. And in fact, I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands, not familiar but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll end when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I can't pretend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Questions, answers,
C'était Louis Doyon, Questions and Answers. Vous écoutez Clara et les Chics Libres en direct sur France Inter, votre salon littéraire, votre duchesse et vos chic types. Notre invitée, c'est Annie Butor, qui raconte un Léo Ferré qu'on n'a jamais lu dans « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. Au menu de ce quart d'heure, la chronique « L'anniversaire oublié » de Gilles Ray, le « Mais pourquoi ?» et le « Neurone en folie » d'Alexis Lacroix. En un mot, la littérature sous toutes ses coutures. On commence avec « L'anniversaire oublié ». Mais qu'est-ce que j'entends? Serait-ce une femme sublime qui aime les hommes?
Outside of love, everything else seems to be a waste of time. I like men.
J'aime les hommes. Non, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Greta Garbo dans La femme aux deux visages de Georges Cukor en 1941, sa dernière apparition à l'écran. Greta Garbo meurt vraiment le 15 avril 1990. Un très beau livre lui rend hommage, intitulé Un renoncement de René de Secati, paru chez Flammarion, Gilles.
En effet, chère duchesse, après La femme aux deux visages, la blonde suédoise aux 25 films s'évanouit des écrans. Il était bien question qu'elle interprète la duchesse de Langeais, tirée de Balzac sous la direction de Max Ophuls en Italie en 1949, mais le retour à l'écran ne se fit pas, la production américano-européenne ayant capoté. Et pourtant, que de projets attendaient encore celle qu'on surnommait la divine. Des personnages comme George Sand ou des cinéastes comme Orson Welles ou Charlie Chaplin. Mais en fait, jusqu'à sa mort en 1990... cette femme solitaire, richissime, collectionneuse d'œuvres d'art, fuyant les journalistes et les curieux, revêtit doucement les contours d'une silhouette spectrale marchant dans Manhattan, indifférente et comme détachée des passions qu'elle inspirait encore.
Ah, comme je la comprends. Dites-moi, Gilles, ce livre, Un renoncement de René de Secati, est-ce que c'est un roman ou une biographie ?
La disparition d'un tel phénomène m'a intéressé, écrit René de Secati, parce que l'effacement m'intéresse et, je crois, doit intéresser toute la littérature. C'est moins donc un retrait du cinéma qu'il évoque qu'un renoncement. Le portrait qu'il fait de Greta Garbo est presque clinique et la fascination pour sa carrière cinématographique fait place peu à peu à l'étonnement devant cette autre carrière qui aurait pu se déployer mais qui s'éteint définitivement après 1941. Comme l'a écrit Roland Barthes, Greta Garbo, c'est la femme d'une époque, celle du cinéma muet, où l'expression du visage, de la chair, développe des sentiments mystiques de perdition. Greta Garbo, c'est donc un visage-objet presque neigeux qui capte la lumière, un visage qui semble inconsolable, comme l'a écrit Klaus Mann. Et les sentiments paraissent secrets et les passions se réfugient sous le masque. Un peu comme vous d'ailleurs, chère duchesse.
Oui, je n'osais pas le dire.
René de Secati l'observe, la suit, spécule sur la vie sexuelle et amoureuse de Greta Garbo. Mais de manière un peu incompréhensible, Secati méprise Ninotchka, le magnifique film de Lubitsch qu'elle tourna en 1939. Il y a pourtant dans ce film une scène magnifique où sa sensualité est bouleversante. Mais voilà, chacun voit Garbo comme il veut, c'est le privilège des mythes.
Merci cher Gilles, Un renoncement de René de Secati, paru chez Flammarion. Allez, on passe au « Mais pourquoi ?» les petits mystères levés par les livres. Cette semaine, notre grand mystère, c'est « Mais pourquoi les enseignants inspirent autant les scénaristes ?» On ne compte plus les films, les livres, les bandes dessinées consacrées aux enseignants. Et vous avez été enseignante, Annie Butor, donc vous voyez de quoi je parle. La profession de charpentier ou d'expert comptable ne peut pas en dire autant. Citons seulement la série télévisée L'Instit avec Gérard Klein, le livre Comme un roman de Daniel Pénac ou, et c'est notre préféré, Le maître d'école de Claude Berry avec Coluche.
C'est quoi abstrait, monsieur ?
Bah abstrait, c'est le contraire de concret. Tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, bon, si je te donne une gifle, c'est concret. Pam, t'as une gifle, tu vois. Si je te donne une image, c'est abstrait. C'est... on peut pas les toucher, c'est une idée. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a, là?
Ben, monsieur, je vais donner une gifle, comme vous m'avez dit. Vous nous avez dit que c'était concret. Concret.
Ça, c'est du concret, c'est Coluche dans Le maître d'école de Claude Berry en 1981. On aime se moquer tendrement des enseignants. Ainsi, quelle est la bande dessinée qui fait un tabac depuis 13 ans ? Eh bien, c'est la série Les Profs, signée Eroc et Pika, qui compte 15 tomes à ce jour. L'action se déroule au lycée Philippe Rodrigue Octave Fanfaron. Il y a Amina, prof de français, aux jupes si courtes que plus aucun élève ne songe à chahuter. Il y a Antoine Antoine Polochon, le prof d'histoire, fou de Napoléon. Il y a Gladys, prof d'anglais, terrible, dont les élèves comptent les jours jusqu'à la retraite. Ils taguent sur les murs J-745. Et depuis le tome 15, il y a une nouvelle proviseure qui veut gérer le lycée comme une entreprise, provoquant deux évanouissements de Paul, le prof syndicaliste et gréviste. Tout ce petit monde va se retrouver sur grand écran puisque le film « Les profs », adapté donc de la BD d'Eroc et de Pika, sortira mercredi. C'est dire si la culture aime les profs. Et justement, nous avons Eroc en ligne, grand privilège, le scénariste de la BD « Les profs ». Allô Eroc ?
Allô, bonjour.
Ah bonjour, très ému de vous avoir.
Mais moi aussi.
Vous faites la joie des anciens cancres comme je suis. Et alors dites-nous, Eroc, mais pourquoi les profs inspirent à ce point les scénaristes ?
Alors je ne sais pas pourquoi les profs inspirent les autres scénaristes, mais moi je pense que quand même c'est parce qu'on est beaucoup, on est lié à l'école à partir du moment où on va à l'école, qu'on a des enfants qui vont à l'école. Finalement on reste dans ce milieu-là assez longtemps. On passe beaucoup de temps quand on est enfant, quand on est adolescent. Après, quand on a des enfants soi-même, nos enfants vont à l'école. Et finalement, moi, voilà, je vais avoir 52 ans. Bon, mes enfants ne sont plus à l'école. Mais pendant pratiquement 50 ans, j'ai été de près ou de loin en relation avec des profs.
On y est de toute façon plus ou moins liés, en fait.
Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte d'ailleurs qu'on en parle énormément. C'est-à-dire que moi, qui m'y intéresse un peu pour la BD, je me rends compte qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas une actu sur le sujet, quoi.
Voilà, alors justement, aujourd'hui, professeur, c'est un métier qui est plutôt mal aimé. On dit souvent, oh, ils travaillent pas, ils râlent tout le temps. Et alors, vous, en fait, vous les montrez sous un autre jour. Ils sont drôles, ils sont passionnés, ils sont un peu débordés, ils sont touchants. Moi, je pense que l'éducation nationale devrait vous décorer. Mais est-ce que c'était une volonté aussi de redorer l'image des profs ? Est-ce que vous êtes en tout cas conscient que quand même, ça redore un peu leur image ?
Alors écoutez, pour la décoration, c'est vrai qu'on attend toujours, mais...
La Légion d'honneur a été proposée, voilà.
Je n'ai rien de neuf. Non, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de volonté précise. C'est-à-dire quand on cherche un sujet de bande dessinée, on cherche un sujet qui n'a pas été utilisé. Donc c'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était simplement de parler d'un sujet peu utilisé en bande dessinée ou alors avec des personnages secondaires. Après, effectivement, dès le début, l'idée, c'était surtout avec mon collègue Pika de ne pas être malveillant parce que à l'époque, j'avais des collègues, des copains qui étaient profs. Et déjà à l'époque, donc en 98, on disait qu'effectivement, ils étaient ou en grève ou en vacances. Et c'est vrai que les gens que je connaissais étaient plutôt des gens qui faisaient bien leur boulot, qui essayaient de le faire le mieux possible. Et nous, on s'était dit qu'on pouvait à peu près se moquer de cette profession si on n'était pas malveillant, quoi. Et que dans une BD, de toute façon, au bout d'un moment, même les personnages les plus négatifs deviennent sympas. Et donc, il n'y avait pas une volonté de redorer leur image, mais je crois quand même qu'effectivement, on les a présentés comme des êtres humains normaux.
Oui, oui, à la force des choses, et voilà. De BD en BD, on finit par les adorer. Dites-moi, est-ce que vous étiez mauvais élève ou pas ?
Ah non, non, moi j'étais un bon élève, j'étais bavard, j'étais un élève pénible parce que j'étais plutôt bon élève, alors quand j'avais fini, je discutais avec mon voisin.
Ah oui, non, c'est complètement normal. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi le nom du lycée, Philippe Rodrigue Octave Fanfaron ?
Ah, ça c'est une belle histoire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez, pendant 7, 8, 10 albums, notre lycée n'avait pas de nom. Et j'avais pas envie qu'on l'appelle le lycée Jules Ferry ou Jean Jaurès, comme tous les lycées. Donc, on a eu l'idée de lancer un concours. C'est-à-dire que dans le journal de Mickey, on a demandé aux lecteurs... aux lectrices, donc, de nous inventer un personnage célèbre.
Donc ce sont les lecteurs du journal de Mickey qui vous ont trouvé ce nom.
Alors c'est une lectrice, on a reçu énormément de réponses, hein, je ne sais plus combien, mais on a passé avec Pika une après-midi à tout trier, et en fait, Fanfaron serait, selon cette lectrice, qui s'appelle Chloé, l'inventeur des profs, c'est-à-dire que c'était un maître d'école, et il a décidé de spécialiser ses élèves, pour en faire des enseignants spécialisés en maths, en français, en chimie, etc. Donc, elle a inventé l'inventeur des profs, quoi.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eroc. Je rends votre copie. Je précise que les profs, le tome 15, sont donc signés Eroc et Pika, parus chez Bambou, et que tout cela arrivera au cinéma mercredi prochain, avec la mise en scène de Pierre-François Martin Laval.
Il passe en classe supérieure.
Voilà, exactement. Oui, oui. En classe supérieure. À bientôt, Eroc,
merci
et bon week-end.
Merci beaucoup à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Je me tourne vers le proviseur de la matière grise, le CPE du neurone, Alexis Lacroix. Notre invitée, Annie Butor, était excellente élève. Elle était aussi la belle-fille de Léo Ferré. Elle le raconte dans son livre « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. Alors, qui dit Léo Ferré dit évidemment anarchiste. Et d'ailleurs, Annie Butor vous rapportait une sorte de légende où Grace Kelly, la princesse Grace Kelly, saute au cou de Léo Ferré en disant « Comment vas-tu, sale petite graine d'ananar ? Alors Alexis Lacroix, qu'est-ce que c'est au juste l'anarchisme ?
Eh bien, Duchesse, l'anarchisme, ce n'est pas d'abord une révolte juvénile au cours de laquelle, aux grandes dames souvent des professeurs, les t-shirts s'ornent du A rouge cerclé. Non, l'anarchisme, c'est d'abord une philosophie, une doctrine qui propose à tous les hommes une voie pour s'auto-émanciper. Les éditions des Équateurs sont en train de rééditer, lettre après lettre, un véritable rêve de bibliophile. Il s'agit de l'Encyclopédie anarchiste. Publié en 1934, cet ouvrage monumental qui compte près de 2900 pages était conçu par un militant du nom de Sébastien Faure et il avait une cible prioritaire, ces millions de parias qui, je cite, « souffre de la détestable organisation sociale ». Sébastien Faure, le concepteur de l'encyclopédie anarchiste, l'assurait « ils y trouveront les lumières qui leur seront nécessaires lorsqu'ils seront résolus à se libérer ».
Oui, alors Dieu sait si les lumières, ça vous connaît, cher Alexis. Lesquelles avez-vous trouvées dans l'encyclopédie anarchiste ?
Écoutez, avec ma lampe de poche, j'ai d'abord trouvé une doctrine politique aux résonances actuelles. Vous vous en souvenez, Duchesse, il y a 140 ans...
Non, Alexis, je ne m'en souviens pas, car j'ai moins de 140 ans, au cas où ça ne se voit pas.
Je vous rassure, Duchesse, bien sûr, ça se voit que vous n'avez pas 140 ans, mais
merci.
Pour moi, vous êtes un peu, comment dire, éternel. Il y a 140 ans, donc, l'Internationale anarchiste avait été créée, emmenée par Kropotkine et Ravachol, et elle a divorcé très rapidement des marxistes sur une question fondamentale, la question du pouvoir. Pour résumer, aux yeux des anars, la révolution ne doit pas remplacer l'hégémonie de la classe bourgeoise par celle de la classe ouvrière. Elle doit, au contraire, abolir toutes les dominations. Léo Ferré, cher Annie Butor, lui aussi, en était persuadé. Il disait « l'anarchie, c'est la négation de toute autorité ».
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes.
Léo Ferré, les anarchistes, chanté en 1969.
Tout à fait, cher et juvénile, Duchesse. Relu en 2013, l'encyclopédie anarchiste frappe par la justesse de ses prémonitions en matière économique. Ses concepteurs ont entrevu une finance devenue folle, celle de 2013. Ainsi, au mot banque, ils écrivent « la finance domine le monde, c'est le dernier stade de l'évolution capitaliste ». Et ils ajoutent « c'est de l'excès des banques, des guerres qu'elles provoqueront et de la misère qu'elles engendreront » que sortira la révolution sociale.
Merci Alexis. L'encyclopédie anarchiste, premier tome de A à C, paru aux éditions des Équateurs.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes. Et sous le phare, grassement maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va, toute seule, avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps on va, tout va bien.
Tout va bien, oui, on le croit volontiers. C'était Avec le temps de Léo Ferré, repris par Alain Bachung. Vous êtes sur France Inter, c'est Clara et les Chic Livres. Notre invitée, c'est Annie Butor, qui raconte un Léo Ferré jusqu'à présent inénarrable. Dans « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. C'est votre moment, chers auditeurs, 01 56 40 52 85, ou la page de Clara et les Chic Livres sur franceinter.fr. Vous nous appelez, vous nous écrivez pour nous parler des livres que vous avez aimés ou qui vous ont barbé. Pour l'heure, c'est la vie secrète du libraire, en partenariat avec le magazine Page. Le libraire, mais si, cet anarchiste qui résiste et qui fredonne dans sa boutique les titres qu'il expose, comme Anne Dagorn-Lévy, qui tient la librairie Page après Page à Paris, dans le 17e arrondissement. Allô Anne ?
Oui, allô, bonjour Clara.
Bonjour. Bonjour, bonjour Anne. Nous avons notre petit questionnaire pour aller fouiller dans votre vie secrète de libraire, chère oui. Anne. Et je vous pose la première. Depuis que vous êtes libraire, quelle est la question la plus farfelue qui vous a été posée ?
Alors, un jour, un jeune client de 12 ans, qui est client de la première heure de la librairie.
Alexis Lacroix, peut-être ?
Non. Pas du tout. Un peu plus jeune. Qui a les yeux qui brillent devant les rayonnages de livres. Oui, oui, ça existe. Et qui s'exclame, cette librairie, c'est le paradis. Se plante un jour devant le rayon policier, pour les adultes.
Ouais.
Et déclare, je voudrais lire des policiers. Mais pas pour enfants. Du vrai, avec du sang, des meurtres.
Ah oui.
Donc, je réponds, mais tu es sûre que tes parents sont d'accord ?
Oui.
Nous avons quand même une grosse responsabilité en tant que libraire. Nous conseillons des jeunes, mais justement, il faut que le conseil soit adapté. Donc, voilà.
Finalement, et il est reparti avec quel titre, alors ?
Il a choisi Harlan Coben.
Harlan Coben, oui, d'accord. Ça passe encore, mais enfin, quand même, pour 12 ans, hein, c'est
un petit... en accord avec les parents.
C'est ça. Bon, bah, écoutez, hein, après tout, Alexis donc... continue encore à lire Oui, oui, se rebiffe, par exemple, la collection
oui, voilà.
Rose, tout ça. Voilà, il
n'y
a aucun âge.
Heureusement qu'il n'est pas reparti avec La vie secrète de Clara Dupont-Bonneau. Hein.
Non, mais elle n'est pas encore écrite, Alexis. Donc
elle
c'est...
n'est pas encore écrite.
Voilà.
On verra, je lirai avant de lui conseiller, on verra.
Merci, Anne. Y a-t-il un livre, Anne, que vous êtes très fière d'avoir fait découvrir ?
Oui, alors il s'agit de L'ombre d'un homme de Bénédicte Desmazeries, qui a été publié aux éditions Anne Carrière.
L'ombre d'un homme.
L'ombre
oui.
d'un homme. Un très beau livre, l'histoire d'Alfred Vigneux, un vieux monsieur solitaire qui invite une famille peu argentée à vivre dans un appartement qu'il possède, dans son immeuble. Et en échange, il souhaite être invité à dîner chez eux. Alors, on découvrira au fil du récit quels sont ses liens avec cette famille et qui est cette vieille femme qui vit avec eux au fond de l'appartement. C'est un magnifique livre sur la mémoire, en fait, sur la guerre, sur les juifs, sur le remords et aussi sur la question, est-ce qu'on peut réparer ? Il y a
d'accord.
beaucoup de choses dans ce livre, justement. Il est très petit, mais il y a beaucoup de choses.
Je rappelle juste le titre, on va se dépêcher un tout petit peu, Anne, parce qu'on est en retard. C'est L'ombre d'un homme de Bénédicte Desmazeries aux éditions Anne Carrière. Je vous pose une dernière question,
oui.
et ce sera pas les. Je vais devoir en éliminer une, pardonnez-moi, on va être en retard sinon. Est-ce oui. qu'il y a une rencontre ou un auteur, avec un auteur, pardon, ou avec un client qui vous a complètement retourné ?
Oui, bah oui, on a fêté notre premier anniversaire de la librairie avec Carole Martinez. Et elle présentait Du domaine des murmures aux éditions Gallimard. Elle a eu le prix Goncourt des lycéens.
Oui, c'est une auteure ici qu'on adore.
Voilà, et ben nous aussi à la librairie. Elle a dit oui tout de suite pour venir et ça nous a beaucoup touchés. Elle est simple, généreuse. Elle est.
Accessible.
Elle est accessible.
Exactement.
Avec tous.
Et dites-nous c'est... juste, Anne, est-ce qu'il y a un livre, juste le titre, un livre que vous avez lu en avant-première qui va faire du bruit, d'après vous ?
Oui, d'après moi, ça pourrait être le livre de Hermann Koch qui s'appelle Villa avec piscine.
Aux éditions Bellefond.
Très
cru,
très féroce. Voilà.
Et très bien, bah, nous surveillerons ça.
Parution le 16 mai.
Parution le 16 mai. Nous surveillerons ça. Merci beaucoup, Anne Dagorn-Lévy, de la librairie
Au revoir de la librairie Page après Page à Paris 17e. L'excellente revue Page des libraires est en vente dans cette librairie. On retrouve aussi les coups de cœur des libraires, dont ceux de Anne, qu'on vient d'entendre, sur pagedeslibraires.fr. Je me tourne vers Annie Butor, notre invitée. Annie Butor, vous avez été élevée par un couple culte, Léo Ferré et Madeleine Rabureau, votre mère. Vous le racontez dans votre livre intitulé « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. Et alors, en vous lisant, on comprend aussi pourquoi votre mère est tombée folle amoureuse de Léo Ferré. Vous le décrivez dans les années 50, c'est la vie de bohème à ce moment-là, et c'est un pitre. Et vous racontez comment est-ce qu'il fait le clown, notamment sur les Champs-Élysées. Ça vous couvre de honte, mais alors qu'est-ce qu'il fait sur les Champs-Élysées ?
Bon, alors ça, je le raconte dans le livre. Il fait le pitre, il fait semblant de n'avoir qu'un seul bras, il traîne la jambe, etc. Mais Léo était un homme, enfin, mon Léo, à moi, en tout cas, pendant 18 ans, a été un homme gay et un homme heureux. Et il nous a apporté beaucoup de bonheur. À la fois, je tiens à le dire, ce n'est pas du tout un livre qui cherche le sensationnel. C'était un homme qui était facile à vivre pour nous, dans notre clan, qui était toujours gay, qui faisait le pitre, qui se déguisait, que ce soit dans les soirées mondaines, plus tard avec Barclay, mais là, c'était pas le plus intéressant, mais qui se déguisait pour moi, qui était très attentif. Enfin, je n'ai que des bons souvenirs pendant très, très longtemps.
Gilles Ray.
Oui, alors, c'était un clown, mais c'était aussi une sorte de gourou politique. Hein. Il a beaucoup inspiré. Alors, il a beaucoup inspiré en tant que poète, en tant que chanteur. Et est-ce que vous voyez des héritiers à Léo Ferré ou des chanteurs, compositeurs alors, qui peuvent prévaloir de lui ?
Alors, je vais vous dire, je n'écoute plus. Je n'ai pas mis un disque de Léo depuis des années parce que ça me fait trop mal. Et je dis que je n'écoute même pas les interprètes ou si je peux y échapper parce que j'ai eu l'original à la maison pendant tant d'années, ça me fait du mal. Alors j'ai aimé Philippe Léotard, j'ai aimé Arnaud. En ce moment, j'entends beaucoup un musicien qui s'appelle Claude Puyalt qui chante très très bien Léo Ferré, qui va continuer à le chanter. Là, c'est de l'actualité. Et il y en a beaucoup sans doute qui m'échappent, hein. Je ne sais pas, un jugement, mais ça me fait mal, donc je fuis. Quant au côté gourou et prophète, et ce qu'il est devenu après, ce n'était pas trop ma tasse de thé, I am un immense provocateur, etc. Mais je ne juge pas, et j'ai toujours une admiration inconditionnelle pour l'œuvre, que ce soit avant ou après 68. Je pourrais vous parler pendant des heures, on n'en a pas le temps, de l'œuvre de Léo que j'admire totalement. Bon, pour l'homme, comme on a dit, je crois que c'est Montaigne qui a dit « il n'y a pas d'homme, de grand homme pour son valet de chambre ». Je ne veux pas faire que de l'anecdotique, ça fait partie aussi de sa vie.
Montaigne repris par Hegel, effectivement. Léo Ferré
disait... Montaigne repris par Hegel, ah bon forcément. Bien sûr. Est-ce que Schopenhauer se baladerait aussi
non,
quelque part
pas dans le coup.
Et Anna Arendt. Mais Anna Arendt,
ils sont vraiment bêtes. Hein. Ils sont bêtes. Hein. Léo Ferré, donc Annie Putor, disait « il n'y a pas de grande musique ». Il y a la musique, c'est
oui,
tout.
Oui.
Et de la même façon, il pouvait chanter, donc vous le montrez, à la fois de l'argot, mais aussi de l'Apollinaire. Et vous écrivez d'ailleurs, pour lui, il n'y avait pas de mots nobles et d'autres qui ne le soient pas. C'était une des clés de son talent, d'après vous ?
Ah oui, totalement. Alors, pour la musique, rapidement, il a fait aussi bien de la musique populaire, et qui dansait, qui voulait faire danser les gens, des foxtrots, des valses, des tangos, le temps du tango, Paris Canaille, des valses, l'harmonie du soir, de Baudelaire, enfin, des chansons très populaires. Et en même temps, il a dirigé des orchestres, et même de mon temps, j'allais dire, et un petit peu avant, La vie d'artiste, l'Opéra de Monaco. C'était un vrai musicien qui avait pris des cours de piano, contrairement à tout ce qu'il a raconté, dont le père a été, bon, peut-être un peu trop autoritaire, ça c'est sûr, mais très gentil. Je tiens à le dire, vraiment, le père de Léo était un homme très bien.
Et, qui adorait votre mère.
Et qui aimait beaucoup maman, mais c'est pas pour ça, enfin, même vis-à-vis de moi. Enfin, j'ai vu, j'ai des lettres, j'ai des centaines de lettres presque du père de Léo. Et puis, si vous me parliez de l'argot, et de... Oui, Léo, il était comme... Il voulait mettre un bonnet rouge au dictionnaire, à tel point que je ne sais plus si c'est Victor Hugo ou Léo qui l'a dit, mais il était extrêmement... Ce mélange qu'il a retrouvé chez Apollinaire, justement, et qu'il retrouvait aussi chez Corbière, parce que Les Amours jaunes et Le Poète Contumace, c'était
un grand proche donc de la littérature française.
Tout à fait.
Merci Annie Butor. Et merci pour « Comment voulez-vous que j'oublie ?» paru chez Phébus. Derrière la vitre, il y avait Michel-Alain Barjou et Valentine Chédebois à la technique d'Ophar Guéry et Hélène Langlois. La semaine prochaine, nous recevrons François Guérif pour Du Polar saignant, paru chez Payot. Juste après nous, plouf, c'est Le Grand Bain de Sonia De Villers. N'oubliez pas de lire et de faire l'amour. Et là, c'est extra. Bon week-end, à samedi.
C'est extra. C'est extra. extra.